Soyez les bienvenus à l'écoute de Paroles de vie. Comment trouver le bonheur? Comment faire pour être heureux? Il ne se passe pas une semaine sans qu'un magazine ou l'autre, dans la presse, dans les médias, traite du sujet du bonheur. Heureux, être heureux, est-ce que c'est possible?
C'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur.
C'est quand le bonheur? Eh bien, ça peut être maintenant, tout de suite, mais peut-être pas de la manière dont on pourrait penser. Il y a dans la Bible un discours du Christ tout à fait étonnant, ça se trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5. On appelle souvent ce discours les béatitudes, du latin beatus, qui signifie heureux. Ces paroles du Christ pourraient sembler complètement en porte-à-faux par rapport aux images du bonheur qui nous sont vendues un peu partout. Alors nous avons décidé d'aller y voir d'un peu plus près, en compagnie de Dany Hameau, auteur d'un livre sur les béatitudes, un livre intitulé « Une question de caractère » paru aux éditions Farel. Et c'est Philippe Malidor qui est allé rencontrer Dany Hameau pour parler de ce fameux discours du Christ sur le bonheur.
En reprenant une expression de John Stott, vous dites que c'est un peu la charte d'une contre-culture chrétienne, si j'ai bien retenu l'expression.
Absolument, parce que les valeurs prônées par Jésus dans ce sermon prennent à rebrousse-poil la mentalité, les façons de réfléchir de l'homme moderne et notamment occidental. On vit dans un monde qui met beaucoup l'accent sur avoir et les béatitudes, et Jésus d'entrée de jeu met beaucoup l'accent sur être.
Ah oui, oui.
La qualité de l'être intérieur et non pas l'extérieur ou les performances ou le savoir, mais être.
Dany Hameau, je vous propose qu'on reprenne une par une ces béatitudes assez brièvement. Ça commence par « heureux ceux qui se savent pauvres en esprit » ou « ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres ». Ça veut dire quoi « spirituellement pauvre » ? Parce qu'on fait beaucoup de contresens sur cette expression.
Alors Jésus ne fait surtout pas l'apologie de la débilité mentale. C'est intéressant de voir que Jésus commence par parler de la pauvreté en esprit. En général, dans l'Ancien Testament, le pauvre, c'était celui qui était donc démuni matériellement, mais qui était conscient de son besoin spirituel. Et le fait d'être pauvre en esprit, c'est la première étape d'une démarche spirituelle authentique, qui fait que je prends conscience de mes lacunes, que je n'atteins pas le niveau requis par Dieu. C'est pas anecdotique, me semble-t-il, de constater que la première des qualités que Jésus requiert, c'est de prendre conscience de ses manquements. Et c'est ça le début de la démarche spirituelle.
Alors ensuite, on a heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Tout le problème est de savoir pleurer sur quoi, parce que pleurer, c'est pas une vertu en soi.
Oui.
Donc quel est l'objet du pleur,
quoi. Et là encore, Jésus ne dit pas heureux les pleurnichards. Si je prends conscience de mes lacunes, je vais être amené à les déplorer, et littéralement, à pleurer sur mon propre péché. C'est ce que dans la théologie catholique, on appelle la contrition. D'abord, celui qui sait pleurer sur ses propres lacunes sera miséricordieux à l'endroit de celle des autres. Alors, la promesse dans la béatitude, c'est Dieu les consolera. Alors, et comme toujours, dans les promesses, il y a une dimension présente et puis une dimension ultime et irréversible dans le royaume de Dieu.
Alors ensuite, on trouve heureux ceux qui sont humbles, car Dieu leur donnera la terre en héritage.
Aujourd'hui, mieux vaut être riche, en bonne santé, que pauvre et souffrant ou malade. On vit dans un monde où la philosophie ambiante, c'est « aide-toi et le ciel t'aidera », c'est « il faut se tailler la part du lion », « il vaut mieux manger les autres que se faire manger ». Bon, dans la culture grecque et romaine, l'humilité, c'était pas une vertu, c'était plutôt une tare.
Oui, alors là, il rame complètement contre courant.
Ah ben, complètement à contre courant.
Oui. Et vous dites cependant que ce n'est pas une image de mièvrerie.
On a du mal à comprendre que derrière la douceur, qui est le fruit de l'esprit, il y a une virilité spirituelle, une force morale qui peut aboutir à un résultat même supérieur à celui que le recours à la force permet.
Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur est promis. heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés.
Même si l'oiseau meurt, pris dans la marée noire, même si l'enfant a peur de l'éclair du soir, même si la lumière n'éclaire plus tes yeux, entends le bruit du jour et des matins joyeux.
Ensuite, on a la faim et la soif de justice. Alors, je me suis dit que ça concerne tout le monde, sauf peut-être ceux qui tirent les ficelles, au sens où la faim et la soif de justice, on en a déjà pour soi-même.
Dieu sait s'il y a de nombreuses injustices, même dans un pays où règne l'état de droit, il y a encore des loupés, il y a des manques. Quand Jésus dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice », il nous dit que nous devons focaliser notre attention sur ce qui compte, ce qui est important aux yeux de Dieu. Aujourd'hui, les gens ont faim et soif des nourritures terrestres. La faim et la soif de la justice, c'est aligner son point de vue sur celui de Dieu et se préoccuper de ce qui importe.
Alors ça nous amène à la miséricorde, c'est tout l'envers de notre société de performance.
Oui.
Donc vous l'avez dit.
Oui, qui ne fait pas de place à ceux qui ne réussissent pas, qui n'ont pas le niveau, ou les diplômes, ou les papiers, ou je ne sais quoi. C'est le message de la grâce. Et en somme, celui qui a bénéficié du pardon de Dieu, celui qui mesure à sa juste valeur la remise de dette, la remise de peine dont il a été l'objet dès lors qu'il se sait être un pécheur pardonné, ayant reçu la grâce, la miséricorde de Dieu, il va l'offrir à son prochain. Et Jésus dit que finalement, il y a beaucoup de joie à donner ce qu'on a reçu de Dieu. Ce qui au passage, et vous l'aurez remarqué dans toutes ces béatitudes, ce qui montre bien que la véritable spiritualité, elle s'inscrit pas seulement dans le cadre du rapport à Dieu, mais également du rapport à autrui. Et ça, c'est du concret. Et Jésus a bien dit que la loi, on peut la résumer par aimer Dieu, de tout son cœur, toute son âme, sa pensée, sa force, et aimer son prochain. C'est cohérent, ça forme un tout.
Alors ensuite, on trouve heureux les cœurs purs. Alors vous définissez les cœurs purs comme, ou avoir le cœur pur comme l'absence de mélange.
Et il y a un verset dans l'Écriture qui dit « Mais qui peut dire « J'ai purifié mon cœur » ?» La Bible dit, finalement, Dieu, il est parfait, il est pur. Ce qui fait obstacle dans la relation à Dieu, c'est le péché. Dieu ne peut pas tolérer le péché. Il n'y a que le sang de Jésus qui puisse enlever notre péché. Et pratiquer la pureté dans son cœur, mais ça encore, c'est une valeur qui n'est pas cotée en bourse, mais on est à contre-courant de la culture moderne, mais c'est ce que Dieu exige. Et le livre de l'Apocalypse nous dit que dans la présence de Dieu, personne qui est menteur, qui pratique le péché, ne pourra y entrer. Cela ne veut pas dire qu'il faut être parfait. Non, cela veut dire qu'il faut être un pécheur pardonné, un pécheur purifié.
Alors ensuite, on a heureux les artisans de paix, ou ceux qui font la paix, comme c'est marqué dans le grec. Alors ce qui est intéressant, c'est une citation de l'apôtre Paul que vous donnez. Il dit en gros, soyez en paix avec les autres, pour autant que cela dépende de vous. C'est très réaliste ça.
Eh oui, tout le monde n'est pas pour la paix. Il y a des gens qui sont pour la guerre. Et il y a des gens qui n'ont pas intérêt à ce que la paix prévale. Alors, Jésus dit dans cette béatitude que le membre du royaume, c'est quelqu'un qui va, plutôt que de jeter de l'huile sur le feu, il va mettre de l'huile dans les rouages pour empêcher que les relations personnelles ne grincent. Pour faire court, on peut dire que beaucoup de gens construisent des murs de séparation. Eh bien, Jésus dit, là où il y a des murs de séparation entre les hommes, le membre du royaume des cieux, il construit des passerelles de réconciliation. Et Jésus est le modèle par excellence, lui qui nous a réconciliés avec Dieu en ayant endossé notre culpabilité.
Dernière béatitude, heureux ceux qui sont persécutés pour leur foi. Je me suis demandé si c'était pas quelque chose d'un peu exotique vu de France.
Jésus est en train de dire que le membre du royaume, malgré lui, par la qualité de son style de vie, il peut déclencher les hostilités. Et Jésus dit, il ose non pas faire l'apologie du martyr, parce que Jésus n'est pas en train de dire que tous les chrétiens doivent verser dans la martyrologie, à savoir, si tu n'as pas été persécuté pour ta foi, tu n'es pas un chrétien authentique. Alors maintenant, il existe différentes formes de persécution. Bien sûr, il y a le niveau, on va dire, physique, mais aussi, il peut y avoir l'agression verbale, répétée, il peut y avoir une forme de harcèlement psychologique au quotidien. Il faut voir une allusion à l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, les faux prophètes étaient adulés. Les faux prophètes, ils caressaient dans le sens du poil. Ils disaient au peuple les choses agréables qu'ils avaient envie d'entendre. Les vrais prophètes, eux, ils disaient les vérités que les gens avaient non pas envie, mais besoin d'entendre.
Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde.
Les béatitudes, c'est un peu la litanie des heureux. Et vous dites quelque part que la vie chrétienne, finalement, c'est enviable.
Souvent, l'Église et la religion ont donné une mauvaise image de Dieu. Et qui l'eût cru ? Jésus, le premier mot qui lui vient à la bouche quand il pense aux membres du royaume, il dit « heureux ». Jésus conçoit la vie, la relation avec lui, non pas comme une occupation ennuyeuse, mais comme un style de vie qui donne envie et qui ne fait pas pitié. Et le sermon sur la montagne, c'est praticable avec la grâce de Dieu. La barre, elle est haute. Jésus dit que le membre du royaume, il doit faire envie et non pitié.
Même si le cri du loup résonne dans la nuit, même si le calice est bu jusqu'à
heureux serez-vous lorsqu'on vous chassera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde.
Les fameuses béatitudes du Christ mises en musique par le groupe Spirit Concept. Ces mêmes paroles étaient commentées aujourd'hui par Dany Hamo, à qui Philippe Malider a tendu son micro pour nous. Au terme de cette émission, je vous rappelle que vous pouvez consulter des extraits du livre de Dany Hamo sur les béatitudes sur le site des éditions Farel, www.editionsfarel.com. Ce livre s'intitule « Une question de caractère ». Voilà l'équipe de Radio Réveil qui signe cette émission, vous salue et vous dit à très bientôt. Au revoir.
Vous pouvez obtenir le CD gratuit de la série d'émissions avec notre invité en écrivant à Parole de Vie, boîte postale 310, 18007, Bourges-Sedex, France, ou via le site www.parole.ch, courriel vie@parole.ch, vie@parole.ch.